Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la présentation, grâce à Mzati, voici le sommaire. Le message de l'opposant Martin Fayulu tendant la main au président de la République pour un dialogue afin de sauver le pays du danger des balkanisations est salué par le gouvernement congolais. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a réagi hier même, quelques heures après l'appel de l'opposant, la position de Martin Fayulu est un acte de haute portée patriotique. Vous entendrez Patrick Mouyaé dans quelques instants. Des milliers d'élèves sont en difficulté de suivre les enseignements dans la ville de Bandundu à cause des fortes pluies qui s'abattent sur la zone, détruisant plusieurs écoles. Le directeur de la province éducationnelle Kwilu 1 lance un SOS au gouvernement tant provincial que national afin de sauver l'éducation de ses enfants qui est en péril. Des tracasseries administratives à outrance sont décriées au port d'Akoula dans la province du Sud-Ubangi. La multiplicité des taxes et services de l'État à ces ports empêche les opérateurs à venir investir dans la province. Pourquoi cette situation et que faire pour y mettre fin? Nous en parlons avec le gouverneur des provinces, Michel Mubunga, qui est l'invité du journal. Tout d'abord, cette réaction du gouvernement congolais à la main tendue de l'opposant Martin Fayulu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, réagissait à une question lors du briefing de presse co-animé hier lundi avec son collègue de l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises à Kinshasa. Pour lui, le discours de Martin Fayulu est un acte de haute portée patriotique. Il encourage ainsi les Congolais à faire bloc pour faire échec à cette tentative de congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur. Les propos de Patrick Mouyaya recueillis par Blaise Chindani.
Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal, lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle, et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir.
Entre-temps, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, poursuit ce mardi ses consultations avec différentes couches sociales à Goma, Nord Kivu. Au quatrième jour hier, il a reçu en audience une délégation du mouvement radical pour les changements MRC, cher à l'opposant Frank Diongo, venu du Canada et de l'Europe, indiquent les sources du protocole de Joseph Kabila. Depuis le début, jeudi 29 mai dernier, plusieurs délégations ont été consultées. C'est entre autres les confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les opérateurs économiques, la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire et les corps hospitaliers. L'issue de ces consultations portant essentiellement sur la paix n'est pas encore connue. Dans l'actualité, sachez aussi que la République démocratique du Congo a été élue hier à New York vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui commence le 9 septembre de cette année. L'annonce est faite par le ministère des Affaires étrangères. Cette élection marque le retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale à la veille du vote décisif pour l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité où le pays est candidat, rappelle la diplomatie congolaise. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, note le compte X du ministère des Affaires étrangères, la RDC a intensifié ses efforts diplomatiques afin de repositionner le pays comme un acteur crédible, engagé et influent au sein des instances multilatérales. On enchaîne avec la province du Maniema où l'on signale des troubles dans la cité de Kayuyu, chef-lieu du secteur de Wakabangu 2 dans le territoire de Pangi, entre les combattants Wazalendo et la population. Les députés provinciaux élus de cette circonscription électorale appellent les uns et les autres au calme et de privilégier la paix. En cette période où les finalistes passent leurs examens hors session, Victor Kikuni Sombenyama demande l'implication de tous et plaide pour une assistance d'urgence aux victimes. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Pour moi, c'est un sentiment de tristesse et de mécontentement parce que nos enfants sont en plein examen. Ils ont besoin de la quiétude et d'un climat apaisé. Mais avec ces altercations-là, ça a provoqué la psychose au point où les enfants se sont séparés en catastrophe. Et Dieu merci, ils ont fini quand même par passer leur épreuve du jour. Mais imaginez déjà là où il y a crépitement des balles, les enfants qui ne sont pas habitués à entendre les crépitements des balles, c'est de la psychose. C'est une manière de dire aux responsables éducationnels de tout faire pour permettre à ces enfants-là de terminer leur épreuve. Et c'est aussi l'occasion pour moi de formuler ma recommandation aux autorités compétentes, particulièrement à l'équipe gouvernementale, qui a déjà dépêché d'ailleurs une équipe et des éléments de l'ordre sur place afin de maîtriser la situation et restaurer la paix et la quiétude dans cette partie de territoire.
Deux morts, dont un policier et un ressortissant chinois, et cinq blessés. C'est le bilan officiel de l'attaque des hommes armés survenue hier à 35 km de Kalemie sur l'axe Bendera dans la province du Tanganyika. D'après l'administrateur du territoire de Kalemie, les assaillants ont tendu une embuscade à un convoi. Le point avec Paul Munanga.
Des sources locales rapportent que les coupeurs de route ont tendu l'embuscade entre les villages Katanga et Kibidje sur l'axe Bendera. Ils ont tiré sur les convois et tué un policier ainsi qu'un sujet chinois. Parmi les blessés, il y a un chinois, des policiers ainsi que des militaires des FARDC qui escortaient les convois, précise l'administrateur du territoire de Kalemie. D'autres sources indiquent que les bandits ont pillé des biens de valeur avant de se replier dans la brousse. Pour rappel, en l'espace de 2 ans, 4 attaques armées ciblant des ressortissants chinois ont eu lieu sur les axes routiers Kalemie-Kabimba et Kalemie-Bendera. Des Chinois ont été kidnappés puis libérés moyennant le paiement des rançons. Dernièrement, le gouverneur du Tanganyika a rassuré les investisseurs que des mesures efficaces seront prises pour leur sécurité. Christian Kitungwa a fait cette déclaration lors de la descente des membres du Conseil provincial de sécurité du Tanganyika sur l'axe Kalemie-Kabimba. Ils se sont rendus sur les lieux où s'opèrent souvent des attaques armées perpétrées par des coupeurs de route. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis, l'ONG, Association des juristes pour la défense des droits de l'homme, AGDDH, sollicite l'implication des autorités locales et nationales en vue de capitaliser le 25e anniversaire de la guerre des 6 jours pour organiser une série d'activités commémoratives à même de reconstruire la mémoire collective sur ces événements funestes. Le directeur exécutif de cette ONG de défense des droits de l'homme s'est exprimé ainsi hier à Kisangani au cours d'un point de presse en marge de la commémoration de cet anniversaire douloureux. Objectif déclaré, faire les plaidoyers nationales et internationales en faveur des victimes. Quelles leçons peut-on tirer de la guerre des 6 jours? Jedi Dia Mabela, secrétaire exécutif de l'AGDDH, explique au micro de Jacques Mkonkole.
Il y a plusieurs leçons à tirer. La première, c'est que l'impunité fait les lits des cycles de violence dans la sous-région du Grand Lac. Le Rwanda qui n'a jamais été condamné, poursuivi, qui n'a jamais payé les frais de la guerre des 6 jours, profite de l'impunité pour refaire la même chose. Aujourd'hui, ils sont impliqués activement dans l'agression de notre pays à l'Est. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître que la justice pour construire la paix. Et donc, la justice est essentielle et cette justice passe par un processus de vérité, un processus de pardon, un pardon sincère et un processus de réconciliation.
Que faire à l'avenir pour éviter ce genre de drame?
L'État congolais doit construire une armée républicaine, une armée qui soit à mesure de défendre l'intégrité territoriale et aussi nous devons nous mettre d'accord sur le pacte républicain, la constitution et éviter de recourir aux armes comme moyen d'expression politique ou comme moyen pour accéder au pouvoir.
Nous l'avons dit dans les titres, des fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps sur la ville de Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, ont occasionné jusqu'ici la destruction de plus de 8 écoles, tant publiques que privées de cette ville. Certaines d'entre elles ont perdu leur toiture, d'autres des murs et d'autres encore complètement détruites. Du coup, des milliers d'élèves sont pour le moment sans endroit où suivre les enseignements. Le directeur provincial de la province éducationnelle Kwilu 1 lance un cri d'alarme auprès du gouvernement provincial et national pour une intervention urgente afin de sauver l'éducation de ses enfants. Hervé Mungeta Makuli plaide aussi auprès des partenaires éducatifs pour des solutions définitives. On l'écoute au micro de Irène Mboma Louzolo.
Il y a des écoles où les toitures ont été emportées et c'est comme ça que nous avions lancé les cris d'alarme. Moi, j'envisage plutôt des solutions à long terme. En ce qui concerne les enfants victimes, il faudrait qu'on puisse prendre des dispositions utiles pour faire ce que nous appelons des contingences. Ça, j'en ai parlé même lors de la revue annuelle. Si on avait le système de contingences, nous allons pouvoir regarder très bien ces enfants. Mais en ce qui concerne ces écoles abîmées, d'ailleurs, il n'y a pas que les écoles, même la maison du proverbe de qui vous parle ici. La foudre s'est abattue sur la toiture et toutes les tôles sont parties. Alors, ce que nous pouvons avoir comme appui, il n'y a que son excellence, monsieur le gouverneur, chez qui nous pouvons faire le plaidoyer. Très souvent, quand ça brille les alens et ainsi de suite, vous voyez les partenaires éducatifs, les PTF, ils y vont vite. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à côté de nous ici, et ce sont des mêmes enfants qui sont brimés, il y a des brimades, mais c'est comme si nous sommes là et nous allons transmettre notre correspondance sous forme de mémo aux conseillers du ministre qui sont venus, les superviseurs nationaux, pour que même au niveau national, on puisse nous assister.
Par ailleurs, à Ituri, l'internat du lycée Kolikori de Fataki a fermé ses portes depuis bientôt 10 ans à la suite de l'insécurité permanente dans la région. Ce cadre de formation et de l'éducation des jeunes filles d'une capacité d'au moins 300 élèves accueillait des enfants venus de presque toutes les provinces de la RDC, dont Kinshasa, Kisangani et ailleurs. Toutes ces gloires relèvent du passé. À ce jour, le lycée n'est opérationnel qu'avec près d'un tiers de ses effectifs, tandis que l'internat a complètement fermé. C'est ce que nous dit Sadiki Aboubakar dans ses reportages parce qu'il a visité cette institution. Suivez.
L'internat du lycée Kolikori de Fataki fut l'un des anciens et plus grands dans la région. Sa qualité d'encadrement et de formation des élèves était à la base de son attraction, en plus du beau climat et du paysage naturel sur des collines surplombant Fataki. Cependant, son histoire sombre commence en 1999, marquant le début de la guerre interethnique en Ituri. Ces jolis bâtiments, construits à l'époque coloniale, ont été vandalisés à plusieurs reprises par des miliciens. La sœur religieuse Denise Dioché, une des anciennes du lycée, est l'actuel préfet des études.
En 1999, quand la guerre a commencé, j'étais élève ici. Et c'est nous qui étions les derniers à être évacués de ce lycée. Et on a encore réouvert en 2005. Et là, on est allé jusqu'à 2017. Mais c'est depuis 2017 que les choses n'ont pas marché à cause de ces atrocités.
Parlant justement des atrocités, la milice Codeco a fait une nouvelle incursion dans ce lycée en mars dernier. Ils ont saccagé tout ce qui restait des dortoirs de l'internat, mais aussi de la grande salle où étaient organisées jadis des activités culturelles. En plus de la réhabilitation de ces infrastructures, la sœur préfet plaide pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire de Djougou en vue de favoriser l'éducation des enfants et le développement du milieu. Des retours de Fataki, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Autre aspect d'actualité, l'Assemblée nationale a examiné hier le projet de loi des finances rectificatives exercice 2025 porté par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qu'accompagnait la vice-ministre des Finances, Onej Nsele. Le budget rectificatif 2025 connaît une réduction des recettes par rapport aux prévisions votées en décembre 2024. Sur le plan des dépenses, ce collectif budgétaire, qualifié de budget de la guerre, réduit les dépenses courantes du train des villes des institutions pour renforcer sensiblement le budget de l'armée. Michel Kifindangoy.
À 13 jours de la clôture de la session de mars, l'Assemblée nationale entame l'examen du collectif budgétaire 2025. Avant la présentation de ce projet de loi, les speakers de la Chambre basse du Parlement invitent les élus à un examen sérieux de ce texte au vu du contexte dans lequel il est exécuté. Vital Kamere.
C'est à votre qualité d'autorité budgétaire que vous êtes invité à examiner la loi des finances rectificatives afin de procéder aux meilleurs arbitrages et d'autoriser les nouvelles allocations des ressources vers les postes les plus pertinents en tenant compte des évolutions récentes.
Pour le ministre d'État à charge du budget, la loi des finances ainsi soumise à la rectification est un budget de guerre. Aimé Boji.
Ce projet de loi des finances rectificatives est avant tout un budget d'urgence et de survie nationale. L'impact de la perte de recettes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. À fin mars 2025, le taux de réalisation de recettes courantes se situe à 71,1% par rapport à la prévision linéaire de 8 054 milliards de francs congolais.
La plénière souveraine déclare donc recevable ce collectif budgétaire et l'envoie en commission ECOFIN pour un débat général et un examen approfondi.
Et dans les territoires de Kabeya Kamwanga, au Kassai Oriental, 150 conducteurs de vélos de Benamulumba et Tintu Tchondo, appelés communément Bayanda, renoncent à leur activité de transport de charbon, de bois et deviennent désormais des prétendants agriculteurs. Le but de cette reconversion est de lutter contre la déforestation et l'insécurité alimentaire. La cérémonie de remise des intrants agricoles à ces conducteurs de vélos a été présidée la semaine dernière à Benamulumba, territoire de Kabeya Kamwanga, par le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC. Des explications avec Esther Dalafina.
Chaque conducteur de vélo devenu prétendant agriculteur a reçu une machette, une houe, une bêche, une quantité de semences de maïs ainsi qu'un hectare déjà labouré. Explication de Mathieu Tibumbu, directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC.
Bientôt, nous allons avoir 150 hectares de denrées alimentaires. Et ces gens-là peuvent nourrir non seulement la province du Kassai Oriental, mais également la capitale Kinshasa. Nous voulons leur dire de travailler d'arrache-pied parce que nous pensons que dans les jours à venir, nous allons les doter d'un entrepôt et également à la suite de cette récolte, nous pouvons développer une industrie de transformation tout autour.
Signalons que les conducteurs de vélos appelés Bayanda ont pour activité principale le transport des sacs de charbon de bois fabriqués dans les territoires de Lupatapata et de Kabeya Kamwanga vers Mbujimayi, le centre de consommation. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le bilan des inondations soudaines qui ont frappé le Nigeria la semaine dernière après des pluies torrentielles a dépassé les 200 morts, indique ce mardi les coordonnateurs humanitaires de l'État du Niger, tandis que des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Nous avons plus de 200 corps, a déclaré Ahmad Souleymane. Personne ne peut dire à l'heure actuelle combien de morts dans l'État du Niger, car nous sommes toujours à la recherche d'autres corps, ajoute-t-il.
L'invité.
Dans le sud d'Ubangi, le port d'Akula fait face aux tracasseries administratives à outrance. La multiplicité des taxes et services de l'État à ces ports empêche les opérateurs à venir investir dans la province du sud d'Ubangi. Le gouverneur de province, Michel Mubunga, est notre invité. Il s'entretient avec Askin Zigbiatayoro.
Bonjour, monsieur le gouverneur Michel Mubunga.
Bonjour.
Voilà, au cours de votre point de presse tenu mercredi dernier, vous aviez dénoncé le tracasserie administrative au port d'Akula, raison pour laquelle vous comptez prendre des mesures contraignantes pour y faire face. Alors concrètement, monsieur le gouverneur, comment décrivez-vous cette tracasserie?
C'est pour moi une occasion de vous dire d'abord merci de m'avoir accordé cet espace de temps pour expliquer ce que j'ai dit au cours de mon point de presse tenu le mercredi passé devant les journalistes locaux dénonçant les tracasseries administratives au port d'Akula. C'est pour moi une occasion de parler de ma province. La tracasserie administrative est perçue de trois manières, à savoir la multiplicité des taxes. Il faut ici relever notamment la dispute de certains actes générateurs entre les services d'assiette. En deuxième lieu, il y a aussi la présence de plusieurs services dans les ports et aéroports. À Akula, il s'est fait malheureusement constater la présence de plusieurs services dans les ports. C'est la même chose, la même réalité dans les ports de Mogalo, Dongo et Zongo. Et c'est en dépit des instructions qui limitent à 4 le nombre de services appelés à œuvrer dans ces endroits stratégiques. La troisième, c'est la lenteur dans le traitement et la délivrance des dossiers administratifs par les services déconcentrés. Il s'observe malheureusement pour ce point que pour obtenir des services déconcentrés et documents administratifs, il faut passer plusieurs jours, voire des mois, malgré les efforts de sensibilisation pour l'amélioration du climat des affaires.
Et jusque-là, quelles en sont les conséquences sur l'économie de votre province, monsieur le gouverneur?
Il est clair que les tracasseries administratives ont des conséquences réelles et négatives sur l'économie de la province. Elles exercent une pesanteur sur les recettes de la province, c'est-à-dire qu'elles occasionnent le coulage des recettes provinciales.
Juste, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de fil d'un opérateur économique. Il était en train de ramener 20 000 sacs de ciment dans notre ville de Guémena pour décourager la hausse des prix. Et voilà, l'homme est venu, il a commencé à décharger les ciment, mais il a eu des vertiges. Pourquoi a-t-il eu des vertiges? Parce que tout le monde se prétendait taxateur. Tout le montant était exorbitant. C'est pourquoi il s'est décidé, il dit non, monsieur le gouverneur, je vous informe, je ne vous ai pas dit avant de le faire. Je vous informe que je suis en train de remettre tout le stock dans les bateaux pour aller vendre ça à Bangui. Donc, vous comprenez quelles conséquences? Le monsieur qui ramenait 20 000 sacs de ciment, il est découragé par la multiplicité des taxes au port d'Akoula et il quitte notre port et aller vendre ses ciments à Bangui.
Alors, comment comptez-vous résoudre ces problèmes, bien sûr, au niveau de port d'Akoula?
Nous comptons, dans les jours à venir, instituer aux différents ports, comme au port d'Akoula, un guichet unique qui regrouperait tous les services taxateurs légalement reconnus en vue de mettre fin à la multiplicité des taxes et éviter ainsi tant soit peu le coulage des recettes. 2. Instruire les chefs de division des services déconcentrés à afficher les frais légalement reconnus afin que les délais reculent pour l'obtention des documents administratifs pour éviter la surenchère et la lenteur administrative qui décourage les honnêtes citoyens et favorise le secteur informel. 3. Sensibiliser les opérateurs économiques sur leurs droits et obligations en vue de dénoncer tout cas de tracasserie administrative et sanctionner sévèrement les contrevenants aux mesures énoncées qui seront prises en concertation avec toutes les parties prenantes.
Mais monsieur le gouverneur, lorsque vous faites allusion à la multiplicité de services au port d'Akoula, n'avez-vous pas la même mise sur tous ces services au niveau d'Akoula?
Certains services autorisés à œuvrer aux frontières ne relèvent pas de l'autorité directe des provinces. Il s'agit ici de l'OCC et la DGDA pour toutes ces prestations. Pire encore, la collaboration avec les responsables provinciaux dans les services est butée à l'éloignement de leur direction provinciale qui se trouve jusqu'à présent dans les provinces sœurs de l'Équateur. C'est d'ailleurs ici les lieux de mentionner que la conférence des gouverneurs des provinces, dont la tenue de la 12e session est prévue du 10 au 13 juin prochain, sera pour nous l'occasion de réitérer au gouvernement central la demande de poursuivre l'installation des directions provinciales de la BCC, des régies financières, par là la DGDA, la DGI et la DGRAD, ainsi que d'autres services dans les nouvelles provinces démembrées.
Je vous remercie, monsieur le gouverneur.
Merci beaucoup à la Radio Okapi.
Notre invité, le gouverneur du Sud Ubangi, était interrogé par Askin Zigbia Tayoro. Par ici s'achève ce radiojournal coordonné par Élisée Chikota, sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Mimi Kindou était à la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix.